Chapitre 14. Alors qu'elle avançait dans la galerie à colonnades qui conduisait à la salle du conseil, Magda garda les yeux rivés droit devant elle. Au-dessus des colonnes de marbre noir, des moulures rondes dorées soutenaient une large architrave sculptée de silhouettes en tuniques longues. Les membres du conseil, disait-on, représentés depuis les origines de l'instance dirigeante des contrées. La voûte du large corridor était divisée en carrés délimités par un cadre doré. À l'intérieur de chaque module, un médaillon de bronze illustrait un des hauts lieux des contrées du milieu. Ainsi, quand les conseillers remontaient ce couloir, ils marchaient sous l'œil même de la foisonnante diversité de peuples et de nations à la destinée desquelles ils présidaient. Une façon de leur rappeler l'ouverture d'esprit et la tolérance dont ils devaient faire preuve en permanence lors de leurs délibérations. Hélas, selon l'expérience de Magda, il fallait beaucoup plus que ça pour que les dignes conseillers tiennent compte de toute la diversité des contrées. Continuant son chemin, la jeune femme passa devant une exposition de longs étendards de soie rouge pendant de la voûte. Le symbole de tout le sang versé au fil de l'histoire pour la défense des contrées et de leur peuple. Sur le chemin de couloir que foulait la jeune femme figuraient les noms de toutes les grandes batailles livrées pour la justice et la liberté. Également rouge, ce tapis honorait la mémoire de tous les combattants, célèbres ou anonymes, qui avaient sacrifié leur vie au nom d'un idéal. En général, Magda trouvait déprimante la traversée de cette galerie. En cette journée très particulière, c'était pire que jamais. Les étendards et le chemin de couloir rouge attiraient encore plus l'attention sur le sang dont elle était couverte. Et ce sang, comprit-elle, la liait davantage que d'habitude à la longue succession des héros qui avaient versé le leur pour défendre leur patrie. Si le conseil faisait la sourde oreille, tous les cours d'eau des contrées couleraient bientôt rouges. Sur le passage de Magda, les hommes plongés dans de grandes conversations se taisaient pour la regarder. Les femmes, elles, reculaient d'instinct. Alors que le corridor bourdonnait normalement de murmures et d'éclats de rire étouffés, un grand silence ponctuait la progression de la veuve du premier sorcier. Quand elle entra dans la rotonde qui donnait accès à la salle du conseil, Magda vit des dizaines de petits groupes de gens occupés à tenir une messe basse dans l'immense salle. Des pétitionnaires en train de répéter le discours qu'ils allaient bientôt tenir devant l'auguste assemblée. Comme dans le couloir, le silence se fit sur le passage de Magda, du seigneurial, et de ces deux colosses de garde du corps. Au plafond, les grandes fenêtres disposées tout autour de la coupole dorée laissaient entrer à flot la lumière radieuse du matin. Sous cette vive illumination, les colonnes rouges qui se dressaient sur tout le périmètre de la rotonde brillaient de mille feux. Entre elles, dans des niches murales, se dressaient les statues d'anciens dirigeants de légende. Un jour, celle de Baracus aurait sa place dans l'antichambre géante de la salle du conseil. D'abord pleine de fierté à cette idée, Magda eut soudain le sentiment que le tranchant d'une hache invisible venait de s'abattre sur sa vie, la coupant en deux. Et son mari appartenait désormais à la partie dont elle s'éloignait à chaque pas. Dans pas si longtemps que ça, Baracus serait devenu un personnage de légende. Un mythe que nul être encore en vie n'aurait connu. À son sujet, il ne resterait plus que des bribes de souvenirs altérées par le temps et le goût inné des humains pour la fabulation. Dans un siècle, le Baracus dont on parlerait encore aurait-il le moindre rapport avec l'homme que Magda avait aimé? Comme la mémoire des gens, l'histoire était un miroir déformant. À cause du passage du temps, bien sûr, mais aussi parce que ceux qui l'écrivaient servaient d'autres intérêts que ceux de la vérité. Même si ça lui brisait le cœur, Magda ne pouvait plus rien faire pour modifier le passé et ramener Baracus d'entre les morts. Alors que les esprits du bien prenaient soin de lui, pouvait-on espérer, la vie continuait et il avait été le premier à inciter sa veuve à aller de l'avant. Comme à l'accoutumée, les grandes portes en acajou de la salle du conseil étaient ouvertes. Hautes comme trois hommes et aussi épaisses qu'un des gardes du corps du seigneurial, elles étaient ornées de délicates gravures censées représenter des sortilèges. Censées seulement car de véritables sorts auraient été bien trop dangereux, ainsi exposés à tous les regards. Selon Baracus, cette illusion visait à rappeler à tout un chacun que le don guidait l'humanité en toutes circonstances. Les battants ouverts, eux, illustraient la tolérance et la largesse de vue du conseil. Là encore, il s'agissait d'un leurre. En matière de politique, rien n'était simple et direct dans les contrées, et surtout pas le conseil central. Les gardes armés de piques qui flanquaient les portes virent que Magda n'avait aucune intention de s'arrêter. D'abord hésitant, les deux soldats inclinèrent leurs armes, puis vinrent barrer le chemin à l'intruse, se campant sur la grande rune gravée dans le sol entre les deux lourds battants.
« Dame Cyrès, vous êtes blessée. Attendez, je vais appeler des secours. »«
Merci, mais c'est inutile. Seuls les conseillers sont en mesure de m'aider. »«
Madame, ils sont en séance. »«
Eh bien, voilà qui est parfait. »
Écartant la pique du garde, Magda reprit son chemin.
« Madame !» cria l'autre soldat. « L'ordre du jour est très chargé aujourd'hui. Les conseillers refuseront de le modifier. »«
Ça, c'est ce que nous allons voir. »
Devant tant d'assurance, les deux gardes ne surent plus trop que faire. Bien entendu, ils savaient que l'épouse du premier sorcier s'adressait très souvent au conseil, mais était-ce une raison pour qu'une femme aux cheveux courts fasse ainsi éruption en pleine séance? De plus, la femme en question était couverte de sang, et ils ignoraient pour quelle raison. Si la forteresse subissait une attaque, ils devaient absolument en être informés. Mais le conseil aussi, d'un autre côté... Intrigués, des gardes postés dans la salle approchèrent de l'entrée pour voir ce qui se passait. Voyant d'abord le seigneur Hall et ses deux colosses, puis remarquant qu'ils accompagnaient la veuve du premier sorcier, pas présentable du tout pour une dame de son rang, ils finirent par repartir. Intervenir, avaient-ils dû conclure, risquait de leur attirer plus de critiques que de louanges. Car enfin, le seigneur Hall était une haute personnalité. Et de toute façon, il revenait au conseiller de donner ou de ne pas donner la parole à un pétitionnaire. Magda se félicita d'avoir convaincu Alric Rall de laisser le gros de ses hommes en arrière. Confrontés à un petit régiment de Darans, les soldats des contrées auraient sans doute réagi différemment. Quand elle fut entrée, Magda se tourna vers son compagnon et lui posa une main sur la poitrine pour l'empêcher d'avancer.
« Si vous attendiez ici, seigneur, « si vous vous tenez près de moi, les conseillers penseront que je suis votre porte-parole. »
Les yeux rivés sur l'estrade, au fond de la salle où siégeait le conseil, Alric Rall se rembrunit. Visiblement mécontent, il finit par se résigner.
« Comme vous voudrez, madame. »
Magda sourit au seigneur, puis elle concentra son attention sur la salle où elle était si souvent venue. Un tapis d'honneur bleu et or divisait en deux le sol de la vaste pièce, et des colonnes en acajou sur les côtés soutenaient des arches majestueuses. Comme dans la rotonde, de grandes fenêtres assuraient l'éclairage au-dessus d'une large galerie qui proposait des sièges au public. Voyant qu'il n'y avait plus une place de libre, Magda déduisit que la séance ne concernait pas des secrets d'état civil ou militaire. Au niveau du sol, sous les balcons, l'absence de fenêtres composait une atmosphère crépusculaire. Une configuration délibérée. Alors que la partie supérieure entendait rappeler la lumière du Créateur, la zone obscure dessous symbolisait le royaume des morts et l'éternelle noirceur de l'après-vie soumise à la dictature du gardien. Une façon somme toute subtile d'illustrer les grands équilibres de la nature dont la vie et la mort, bien entendu, restaient les composants les plus lourds de sens. Sous la galerie, sur tout le périmètre de la salle, se tenait une partie des pétitionnaires venus plaider leur cause devant les conseillers. Comme toujours, Magda vit parmi eux des militaires en grand uniforme, toute une théorie de dignitaires et de hauts fonctionnaires en tenue d'apparat et des sorciers et magiciennes à la mise à la frappante sobriété. Quelques grandes dames et leur suite complétaient le tableau. Comme partout dans la forteresse, des gamins accompagnés de leurs parents se promenaient comme si de rien n'était dans la majestueuse salle. À la chiche lumière des hautes fenêtres, Magda reconnut le halo blanc qui enveloppait immanquablement les fumeurs de pipes regroupés dans une zone spéciale sur la droite. Ailleurs, des nuages de poussière attestaient qu'on allait et venait sans cesse dans la salle, même pendant la séance. Le tapis d'honneur étant déroulé à l'endroit le mieux éclairé de la pièce, l'entrée puis la progression de Magda ne passèrent pas inaperçues. La robe tachée de sang aurait déjà fait son effet. Mais son visage et ses cheveux, comme elle l'avait vu en se regardant dans un miroir, étaient carrément à faire peur. Malgré la relative quiétude qui régnait dans cette salle, une guerre faisait rage dehors. et les combats, selon Barak, c'était une véritable boucherie. Dans ce jeu de massacre, les hommes tombaient comme des mouches, les membres arrachés, le torse éclaté comme un fruit trop mûr. Le bruit et la fureur, racontait-on, dépassaient tout ce qu'un esprit saint pouvait imaginer. Quant au désespoir, il régnait en maître sur tous les cœurs qui battaient encore. En comparaison, dans le fief du conseil, tout était paisible, harmonieux et rassurant. Ici, le sang et les larmes n'avaient pas droit de cité. Une illusion de plus, bien entendu. En dépit des efforts de ces gens, prêts à tous les aveuglements pour pouvoir jouer à cache-cache avec la réalité, la guerre était partout et elle ne respecterait aucun sanctuaire. Comme dans le couloir puis dans la rotonde, toutes les conversations moururent sur le passage de Magda. Ici, presque tout le monde la connaissait. Un peu plus tôt, les gens l'avaient vue se tenir devant le bûcher funéraire de son mari, un chef spirituel qu'ils adoraient. Un grand nombre d'entre eux étaient même venus lui présenter leurs condoléances. Sur l'estrade, les conseillers siégeaient autour d'une longue table en quart de lune. Derrière eux, assis à de petits bureaux, les assistants et les greffiers prenaient fébrilement des notes. Pour présenter leurs requêtes, les pétitionnaires devaient se camper au cœur du quart de lune, le public dans leur dos. Magda reconnut au premier coup d'œil la femme qui s'exprimait d'une voix vibrante de passion devant les conseillers. Comme si elle avait senti un regard peser sur sa nuque, la pétitionnaire s'interrompit et se retourna. Remarquant la tenue plus que négligée de Magda et sa coupe raccourcie, elle lâcha froidement.
« Quand je m'adresse au conseil, je déteste qu'on vienne m'interrompre. »«
Pourtant, c'est moi qui vais prendre la parole, Viviane, »
dit Magda avec l'ombre d'un sourire pour sa rivale.
« Tu reprendras plus tard. »
« Qui t'autorise à croire ?»
commença Viviane en repoussant derrière son épaule sa très longue chevelure brune.
« Va-t'en !»
dit simplement Magda. Son ton glacial fit sursauter Viviane, mais ne la convainquit pas de débarrasser le plancher. Approchant encore, Magda lui souffla à l'oreille.
« Si tu ne files pas, Viviane, il faudra qu'on te porte quand j'en aurai fini avec toi. Et tu sais très bien que ce ne sont pas des menaces dans l'air. »
Vaincue, Viviane se tourna de nouveau vers les conseillers, esquissa une révérence, puis détala sans demander son reste. Un silence de mort régnait désormais dans la salle.
Que signifie cette interruption?
Demanda le conseiller Weston, rouge de colère.
Qu'est-ce qui peut vous paraître assez important pour justifier une telle intrusion?
Une question de vie ou de mort, bien entendu,
répondit Magda en croisant les mains dans son giron. Des murmures affolés coururent dans toute la salle.
De vie ou de mort, que racontez-vous là?
Weston ayant commis l'erreur de l'interroger, lui tendant une perche, Magda regarda chaque conseiller dans les yeux avant de lâcher.
Il y a dans la forteresse des intrus capables de marcher dans les rêves.